Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre constante fidélité au programme de Savane FM. Comme tous les samedis, donc, nous nous retrouvons pour notre émission de santé. C'est votre émission hebdomadaire de 14h à 15h, mise en onde Samboil Boudo et présentation Wenpangajan Arnaud Sawadogo. Dans notre studio, nous avons quatre invités pour parler de communication, de plaidoyer, afin de contribuer au renforcement de la prise de conscience de l'importance de l'accès des adolescents et jeunes à l'information, aux services et soins de santé, de la reproduction et de la planification familiale. Nos invités donc dans ce studio sont, nous avons Dr Compaoré Isaka, il est médecin de santé publique au ministère de la Santé, précisément à la direction de la santé et de la famille, il est dans le bureau santé des adolescents et jeunes. Nous avons également dans ce studio Madame Sié Aïda Estelle, elle est enseignante à la direction de l'éducation en matière de population et de citoyenneté. Et également, nous avons une ambassadrice des jeunes pour la SRS, Tarnagda Geneviève Clémentine. Elle est présidente du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction au sein donc de l'ABBF. Et enfin, dans ce studio, nous avons Madame Siri Mariama, présidente de l'association Mère Teresa de la Charité. Elle s'est engagée donc dans la lutte contre les grossesses précoces et grossesses non désirées en milieu scolaire. Chers invités, bonsoir. Bienvenue dans ce studio et merci encore pour votre disponibilité à partager des informations et aussi des expériences, vos missions avec nous et les auditeurs. Sans plus tarder, donc, nous allons souffler un peu à musique, histoire donc de féliciter tous ceux ou toutes celles qui se sont dit oui devant le maire ou devant le prêtre aujourd'hui samedi. Il s'agit donc de ceux qui se sont mariés et nous leur proposons donc ce titre Eternal Flame de The Bangles.
Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this
voilà, heureux ménage donc au couple, au nouveau couple donc qui se sont mariés aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous parlons donc de l'exclusion des adolescents et des jeunes et de l'accès à la santé sexuelle, de la reproduction et pour planter le décor. Donc nous allons faire donc la situation de l'accès des jeunes aux soins en matière de santé sexuelle et reproductive. Et nous posons cette question à Dr Compaoré. Dr Compaoré, quelle est la situation actuellement de l'accès des jeunes et des adolescents en santé sexuelle et reproductive?
Merci, merci d'avoir. Mm-hmm. Bonsoir à tout le monde. Je crois que c'est D'abord, l'opportunité au fait, là, elle doit être remerciée à sa juste valeur, parce que c'est une question assez importante que de la sexualité des adolescents et des jeunes. L'accès de ces adolescents et des jeunes au service de soins, en tout cas adapté pour la santé sexuelle et reproductive, au Burkina Faso dont on parle, je crois que les chiffres sont plus parlants quand on va montrer également justement que les taux de prévalence contraceptive sont assez bas dans cette tranche d'âge-là, alors que leur apport dans la fécondité est assez important. On sait qu'au Burkina Faso, nous sommes toujours autour des 6 enfants par femme. Mm-hmm. Et dans ce lot où les adolescents ne devraient pas avoir de part, malheureusement, il y a au moins 11% représentés par les adolescents et les jeunes. Mm-hmm. Et quand on regarde le taux de prévalence contraceptive, en 2016, nous avons 6,6 pour les 15-19 ans. Et pour les 19-24 ans, nous avons 21%. Mm-hmm. Ce qui reste très loin, alors qu'on sait tous ici que c'est une tranche d'âge qui n'est pas inactif, mm-hmm. que les résultats sont là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas à accéder ? C'est probablement que la question viendra. Oui. Sinon, le fait il est là, l'accès est faible. Mm-hmm. L'accès est faible. Et les chiffres qu'il vient de dire, je pense, le montrent assez bien. Okay. Également, quand on regarde les grossesses que nous enregistrons suite à un milieu scolaire, depuis 2012, je crois que le rapport dernier sur la population, le rapport de 2016, montre plus de 6000 cas de grossesse en milieu scolaire. Mm-hmm. Plus de 6000 cas. Dans le rapport, il s'est marqué 6401 cas recensés. Ce qui n'a pas été vu, comprenez que le nombre exact, il est plus important. Malheureusement, à l'intérieur, vous avez également des élèves du corps primaire, jusqu'au CE2.
Ah bon?
Jusqu'au CE2. Voilà. Donc, les chiffres montrent effectivement qu'il n'y a pas d'accès, ou il y a en tout cas un autre problème, mm-hmm. qui fait que celles-là qui ne devaient pas être en train de faire des enfants, elles font des enfants.
Oui, mais qu'est-ce qui bloque justement donc, quelle est la difficulté?
La difficulté d'accès. Mm-hmm. À la contraception, il y a probablement plusieurs ordres. Parce que même la disponibilité, c'est vrai que le ministère de la Santé a fait un grand effort. Mm-hmm. Il y a même la loi SR qui stipule que tout le monde a droit à la SR, c'est-à-dire à la PF, donc la protection familiale, en dehors des méthodes non réversibles, évidemment, mm-hmm. pour les adolescents et jeunes. Mais force est de connaître que nous n'avons pas toujours accompagné par ce qu'il faut. Que ce soit accessible. D'abord disponible et accessible, justement, à ces tranches-là qui sont souvent diminuées. Quand on prend le milieu scolaire, par exemple, il y a combien de milieux scolaires aujourd'hui qui sont fonctionnels au Burkina Faso? Ah, c'est la première question. Pas beaucoup. Deuxième question, ceux qui sont fonctionnels, combien offre la PF, par exemple? Ça encore, ça connaît sur les bouts des doigts. Mm-hmm. Donc tout cela montre que c'est difficile.
Ok. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Madame Massiri, vous êtes sur le terrain, vous rencontrez les jeunes, vous faites des sensibilisations contre les grossesses non désirées et précoces. Qu'est-ce que les jeunes eux-mêmes disent sur la situation? Qu'est-ce qui les empêche justement d'accéder aux santé en matière de santé sexuelle et reproductive?
Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de s'exprimer. Qu'est-ce que ces jeunes disent? Ces jeunes disent, nous ne savons pas où aller chercher les méthodes contraceptives. Et nous ne savons pas où aller chercher et nous n'avons pas assez d'informations sur ces méthodes-là. Donc, du coup, ces jeunes où les rapports sexuels sont non protégés ou après les rapports, on court dans toutes les pharmacies pour chercher les pilules du lendemain. Voilà.
D'accord. Merci en tout cas, madame. Madame Sié, vous êtes enseignante et déjà, dites-nous exactement, est-ce qu'il y a des textes en la matière ou du moins dans les écoles, est-ce que vous avez des modules qui parlent de sexualité des adolescents et des jeunes?
Bien, je vous remercie. Mm-hmm. C'est une très bonne question. Mm-hmm. Parce que et la direction d'où je viens, la DMPC, bon, qui a été créée dans les années 80-85, là, mm-hmm. avec l'appui de l'INFPI, et qui œuvre dans le domaine de la résolution des questions de population, la DMPC a commencé à s'attaquer à ce problème-là depuis lors, depuis 84-85. Comme le docteur l'a souligné tout de suite là, ce problème, on l'a déjà relevé depuis ce temps et on s'est attaqué à ça. Et c'est dire que depuis cette période-là, il y a eu une expérimentation de la part de, de notre structure pour l'enseignement des contenus visant à aider les élèves à donner les informations justes, utiles, pas déviantes en quelque sorte, vraiment pour aider les filles à ne pas tomber enceinte. Donc, mais malheureusement, avec la fin du projet, bon, ça s'est laissé lettre morte en quelque sorte. Mais je pense qu'on va revenir là-dessus sur qu'est-ce qui est en train d'être fait, qu'est-ce qu'au niveau de l'éducation.
Ok.
Voilà, pour D'accord. parler de ce problème-là.
D'accord. Merci beaucoup. Nous avons également une présidente du réseau de jeunes ambassadeurs. Ils se sont engagés donc dans la sensibilisation, dans l'éducation sexuelle contre les grossesses non désirées. Et il s'agit bien sûr de Geneviève Tarnagda. Et Geneviève Tarnagda, apparemment, les jeunes ont plus peur de la grossesse que des maladies comme les MSC ou le sida. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela?
Ok, je vous remercie pour la question. Et effectivement, lorsqu'on est en contact avec ces jeunes-là, on a vraiment l'impression qu'ils ont plus peur des grossesses et que des IST.
Mais finalement, ils tombent dedans quand même.
Oui, mais finalement, ils tombent dedans parce qu'effectivement, comme le disait tantôt le docteur, avec les statistiques, effectivement, on voit que beaucoup de jeunes sont victimes de ces GND et victimes aussi des IST. Donc, ce qui fait que, puisqu'il y a, il y a des rumeurs qui sont autour des méthodes de contraception. Donc, ces rumeurs-là font que ces jeunes-là ne veulent pas utiliser ces méthodes. Ils préfèrent aller à l'acte sexuel, quitte à après, peut-être comme ce qu'a dit madame de l'association, Mère Teresa, quitte à après aller chercher la pilule le lendemain. Parce qu'avec les rumeurs qui tournent autour de ces méthodes-là, beaucoup sont vraiment réticents. Et surtout qu'on n'en parle pas, non seulement on n'en parle pas à l'école, en famille aussi on n'en parle pas parce que c'est considéré comme un sujet tabou. Alors que le phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Lorsqu'on voit, on sait que 47% de cette population-là a moins de 15 ans. Et les statistiques aussi ont montré que 83,7% de cette population-là, et des jeunes, ont eu leur premier rapport avant d'atteindre l'âge de 20 ans. Donc c'est vraiment un phénomène, il faut vraiment en parler et voir quelles solutions il faut trouver pour pouvoir éviter que ça soit encore un sujet tabou, parce que le problème est vraiment réel.
D'accord. Merci en tout cas pour ces précisions. Je rappelle aux auditeurs que nos invités sont le docteur Compaoré Issaka, il est médecin de santé publique à la DSF, à la Direction de la Santé de la Famille. Nous avons également Madame Sié Aïda Estel, elle est enseignante à la DMPC, et également nous avons Tarnagda Geneviève, présidente du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction. Madame Siri Mariama est présidente d'association. Mère Teresa de la Charité à Samba à Ouagadougou. Et bien sûr, à la mise en œuvre, nous avons Sambo Ilboudom. Nous continuons donc avec notre sujet qui parle justement d'exclusion entre griffes de l'accès des jeunes à la santé sexuelle de la reproduction. Docteur, vous avez donné des chiffres tantôt, mais c'est énorme quand même. Si on prend par exemple le milieu urbain où on note 9,3% de cas de grossesse non désirée, et dans le milieu rural, 23%, c'est quand même énorme.
Oui, vu tantôt que le chiffre est énorme, seulement ce que nous avons noté comme chiffre, c'est ce qui a été notifié. Cela veut dire qu'en réalité, les vrais chiffres dépassent ce que nous avons. Le problème est nettement plus important que ce que nous avons comme chiffre. Alors, pourquoi est-ce que nous avons ces états-là? Je crois que c'est ce que nous avons tenté en fait de retrouver et proposer des solutions. C'est sûr, quand il y a des grossesses, c'est qu'il y a eu des rapports sexuels. Des rapports sexuels non protégés et fécondants. Ça veut dire que parmi les rapports, parmi les grossesses que nous avons vues, ce qui n'a pas été fécondant est encore très énorme. Malheureusement, les risques d'infection, les IST et non pas les MST, y compris le VIH, sont encore plus énormes par rapport au nombre de grossesses. Mm-hmm. Quand vous avez enregistré, par exemple, pour cette période 2012-2016, 6 000 cas de grossesse, cela veut dire que les risques d'infection par les IST et le VIH sont plus énormes que les 6 400. Mm-hmm. Voilà, ce qui explique que l'infection à VIH, dans cette tranche d'âge-là, a tendance à remonter, ce qui est vraiment très inquiétant. Mm-hmm. D'ailleurs, même qui a justifié justement l'initiative All In, tous ensemble, pour lutter contre le VIH.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Donc, c'est une question très importante et actuelle.
OK. Mm-hmm. Merci en tout cas, docteur. Madame Sié, on dirait que c'est un phénomène de mode maintenant, hein, dans les établissements scolaires, puisque c'est là-bas même qu'il y a le véritable problème, les grossesses non désirées. Et selon vous, donc, qu'est-ce qui pousse justement les jeunes filles à tomber enceintes comme ça, sans se protéger?
Je pense qu'on va se compléter, mm-hmm. parce qu'il y a beaucoup de facteurs.
Okay.
Beaucoup de facteurs, ce que nous on appelle les facteurs à risque. Parce que les facteurs à risque au niveau des établissements, souvent, vous avez l'organisation, au cours de l'organisation des kermesses, ce qu'ils appellent les nuits culturelles. Alors, ça, au cours de ces nuits culturelles-là, il y a des comportements vraiment qui laissent à désirer. Mm-hmm. C'est un moment propice où les jeunes boivent, les parents ne sont pas là, donc ils font ce qu'ils veulent.
Vous pensez que ce n'est pas une bonne chose ou bien quand même il faut revoir même...
Bon, en tout cas, bon, je ne peux pas jouer, faire vieux jeu, mais je sais que, bon, en notre temps, nous avons toujours ces kermesses-là, mais c'était quand même un peu cadré, parce qu'il y avait des limites d'heures, et les enseignants étaient, en tout cas, assez impliqués. Bon, j'allais dire enseignants, administration, pour ce que je connais, en tout cas.
Oui.
Il y avait un œil dessus, et il faut dire que les enfants aussi étaient un peu plus dociles. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on voit le comportement des enfants, leurs réactions, même leurs réponses, la façon dont ils répondent à leurs enseignants, ce qu'on pouvait demander il y a longtemps aux élèves, de nos jours-là, c'est plus compliqué. Donc, la gestion est plus difficile. Bon. Donc, il y a parmi ces facteurs-là, il y a, il faut le dire, des facteurs comme la drogue qui circulent au sein, aux abords des établissements. Et tout ça, ce sont des facteurs qui amènent les enfants à avoir certains comportements. Il y a, ce qu'on peut dire, par exemple, des élèves qui quittent leur coin, qui sont affectés dans une région et qui vivent ensemble, des colocataires en quelque sorte, et qui n'ont pas les moyens. Donc, je peux dire que c'est la misère, la pauvreté. Bon, quelqu'un qui vient et qui veut leur offrir ce dont elles ont besoin. Donc, parfois, elles sont obligées et elles n'ont pas les informations nécessaires et justes pour se protéger en plus contre ça. Donc, elles se laissent aller. Bon, il y a le phénomène des mines. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses par rapport à la survenue de ces grossesses-là.
D'accord.
Voilà. La pauvreté, le gain facile. Hein. Il y a des filles qui ont tout, mais qui tombent enceintes, qui ont l'argent, et les parents leur offrent tout, mais qui tombent enceintes.
Oui, mais comment vous pouvez expliquer cela?
On explique cela, c'est le manque d'informations juste. Elles n'ont pas les informations qu'il faut, elles n'ont pas l'éducation, j'allais dire, qu'il faut. Aussi bien, ce n'est pas seulement l'école, hein, mais puisque la source même, c'est la maison. Voilà. Elles n'ont pas ces informations-là. Et c'est ça qui fait qu'elles tombent là-dedans. Sinon, si elles pouvaient l'éviter, elles allaient le faire. Bon, bien sûr, il y a des cas isolés où les filles font exprès peut-être pour tomber enceinte, pour qu'on accepte qu'elles soient avec telle personne, mais c'est rare quand même.
Okay.
Et là, on retrouve à un niveau plus élevé.
D'accord.
Sinon, le docteur l'a dit, regardez, à partir du CE2 déjà, on a des enfants qui tombent enceintes. Et là, ce sont les informations. Et c'est l'éducation. Voilà, je pense que les autres pourront compléter.
C'est vrai qu'on va se tourner vers Mme Siri. Mme Siri, est-ce qu'ici on peut parler de responsabilité des parents? Comment on peut situer la responsabilité des parents même dans l'éducation sexuelle de leurs enfants?
Oui, on peut parler de la responsabilité des parents parce que quand vous... Nous, on sensibilise. Je vais prendre le cas de l'association oui. Mère Teresa. Quand vous sensibilisez dans une classe et qu'une fille de 12 ans vous dit « Mais madame, vous parlez d'abstinence, vous parlez de méthode, moi, je ne vous comprends pas bien. Moi, il y a des jours, j'ai envie d'avoir l'acte sexuel. Je ne comprends pas votre histoire d'abstinence à mon âge. Je ne comprends pas. C'est pour dire qu'à la maison, on ne parle pas de sexualité avec une fille comme ça. Elle a tout appris dans la rue, comme on dit. Elle a appris avec les camarades. Alors que non, à partir de 7 ans déjà, il faut avoir des méthodes. Voilà, il faut bien laver tes dessous. Bientôt, hein, tu vas avoir ton cycle. Voilà comment il faut gérer ton cycle menstruel. Ah, il ne faut pas te laisser tripoter par les garçons. Il faut avoir des manières de parler avec l'enfant. Bon, ce n'est pas aussi venir parler à un chef, hein, avoir une autorité, pas possible. Parce qu'en ce moment, l'enfant ne va même pas chercher à comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de lui apprendre. Il faut que ça soit autour d'une partie de cartes, autour d'une partie de Lido, vous glissez des petits mots comme ça. Et après, vous demandez à l'enfant, peut-être quelques jours après, est-ce que tu as retenu ce que je t'ai dit la dernière fois? Bon, mais quand il n'y a pas ça, l'enfant sort et l'enfant apprend avec les camarades.
Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a abandonné certains comportements ancestrales? Je veux dire, avant, les mamans disaient aux jeunes filles, si tu te laisses toucher dans cette partie du corps par un homme, tu vas mourir, c'est dangereux, c'est grave. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne dit plus ça aux jeunes filles-là qu'on a ce phénomène de grossesse non désirée?
Oui, je suis du même avis que vous parce que nous avons fait une étude en 2014 et nous avons approché un chef de village qui nous a dit « Mais aujourd'hui, vous jouez aux Blancs, vous jouez aux Européens. Les enfants ne partent plus au village pendant les vacances. Vous, vous n'êtes pas à la maison. Vous laissez, c'est la télé qui éduque les enfants pour vous. Bon, Internet éduque les enfants. » Qu'est-ce que vous voulez? C'est les conséquences comme ça. Parce que avant, quand les enfants partaient au village, la nuit, il y a des contes, il y a une tante qui est là, qui dit, ah, tu sais, bientôt, tu seras une femme. Voilà comment ça se passe. C'est vrai que quand on parle de grossesse, on parle toujours, c'est comme si on parle de la fille. Mais moi, je veux qu'on parle aussi du garçon. Parce que il y a la paternité précoce.
Mais c'est la fille qui est plus concernée, puisque c'est elle.
Oui, la fille est plus concernée, mais le garçon, grossesse, c'est deux personnes. Voilà, c'est les deux. Parce que nous, moi, j'aime bien quand on parle de paternité précoce, parce que les cas qui viennent à notre association, il faut chercher à savoir qui est l'auteur. Vous allez voir, c'est un jeune de 14 ans, 15 ans. Mais nous, on fait assumer cette responsabilité à ce jeune. Ce n'est pas parce qu'il a 14 ans ou 15 ans, mais c'est lui l'auteur, c'est lui l'auteur. Voilà. Donc moi, je me dis que les parents, maman comme le papa, doit avoir le temps de parler de sexualité avec les enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
D'accord. Merci, Madame Siri. Avec votre permission, nous allons écouter un micro-trottoir que nous avons réalisé avec quelques jeunes. Dans les rues de Ouagadougou, s'il y en a qui veulent pratiquer l'abstinence, il y en a aussi qui veulent s'essayer pour voir. Il y en a même déjà qui nous parlent des produits de contraception qu'ils utilisent. Et ensemble, nous allons écouter avant de revenir dans ce studio.
Pourquoi on n'a pas encore commencé à avoir des rapports sexuels? Si on commence seulement là, on va utiliser les moyens de contraception.
C'est la même chose. Hein. Si on commence, voilà, on va utiliser les méthodes contraceptives. Non, même pas.
Moi, en tant que jeune fille, je préfère l'abstinence parce que c'est à 100% sûr. Les méthodes contraceptives, je n'en donne pas confiance à ça.
En tant qu'une fille, tu ne devrais pas utiliser ces méthodes. Tu es née pour enfanter, non? Donc, selon moi, on ne devrait pas utiliser.
Il y a deux catégories de filles. Des filles qui préfèrent attendre jusqu'au mariage et des filles qui préfèrent le faire avant le mariage.
Utiliser les trucs des médecins, moi, je ne trouve pas ça trop génial.
Pour le moment, on est jeune fille, on est des élèves, on ne pense pas à ce genre de trucs d'abord, mais on sait qu'on va rentrer dans ça d'ici quelques moments. Mais je pense que la solution pour s'en sortir dans l'adolescence, dans la jeunesse. Il faut s'abstenir, c'est ça la meilleure solution. Quoi.
Il y a le Norplan, les injectables, les pilules, c'est ce que je connais. Bon, moi je ne les utilise pas parce que je me dis qu'il n'est pas encore temps pour moi de les utiliser. Comme je suis un peu trop jeune.
Les préservatifs, j'ai entendu parler de ça à l'école primaire.
J'ai vu le stérilet dans un livre d'adulte de 4e.
Et il y a le Norplan aussi. J'ai entendu ça parler à l'hôpital. Que le Norplan, si on met le Norplan, ça sert à 5 ans pour les femmes.
J'utilise fréquemment le préservatif. Parce que je trouve que c'est mieux adapté à mon sens. Et ici, à la BBF, les préservatifs coûtent 10 francs. Donc c'est subventionné. Et je pense que c'est fait spécialement pour nous, les jeunes, qui n'avons pas aussi l'argent pour aller dans les pharmacies pour payer à coût élevé.
Voilà donc un micro-trottoir que nous avons réalisé dans les rues de Ouagadougou. Docteur, vos réactions sur ça?
Ok. Merci. Oui. Quoi que... La somme des réponses nous conforte en fait dans le fait qu'il faut faire un travail important sur cette question-là. Je vais revenir pour dire simplement que dans la survie de la grossesse en milieu scolaire surtout,
oui.
Il faut séparer les facteurs des circonstances. Parce qu'il y a des aspects sur lesquels on peut jouer facilement, des aspects sur lesquels on ne peut pas jouer. En tout cas, pas assez facilement.
Oui.
Parce que l'adolescence en elle-même, c'est une phase obligatoire de tout individu. On sait les risques qui sont dedans. Et justement, à ce moment-là, les efforts doivent être centrés sur les parents et non pas seulement sur les adolescents. C'est-à-dire, c'est aussi aux parents de créer l'environnement favorable pour que justement les adolescents ne prennent pas des risques inutiles. Parce que c'est leur nature de prendre ces risques-là. C'est leur nature. J'allais paraphraser un président qui n'est plus africain. Il dit, quand tu n'es pas révolutionnaire à 21 ans, c'est que tu n'es pas de cœur. Mais si tu l'es toujours à 40 ans, c'est que tu n'as pas de tête. C'est pour montrer justement cette phase-là, son importance, sa caractéristique. Sa caractéristique première, c'est de prendre des risques. Nous devons savoir cela. Nous devons faire en sorte que les risques soient limités autour des adolescents. Et c'est les deux sexes à la fois, pas seulement pour les femmes, pour les filles, je veux dire. Mais c'est pour les deux, les hommes et les garçons, et les femmes. Sans oublier que les parents ont aussi un rôle à jouer. En dehors même d'être des exemples, ils ont aussi à mettre en place des structures, des systèmes qui permettent, si vous donnez à votre fille de 12 ans un appareil qui permet de connecter sur l'Internet comme elle veut, ou comme il veut, alors qu'il n'a pas encore eu la bonne information, il va prendre l'information qui n'est pas juste. Et sur ce terrain-là, j'ai toujours que c'est assez fertile. Les bonnes herbes poussent très facilement. Donc nous avons un devoir de faire en sorte que l'information juste arrive à temps. Que l'information juste arrive à temps. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est de pouvoir mettre en place justement l'offre adaptée à eux. L'offre adaptée à eux. Je vais prendre un exemple simple. Si vous alignez des adolescents, des jeunes et des personnes adultes sur un même banc pour consulter, vous avez des chances que les jeunes se lèvent et repartent. Quand il s'agit justement des aspects sexuels, ils vont repartir chez eux. Et quand on va les revoir, c'est ça avec les complications. Parce que quand la grossesse va arriver, elle fera d'abord ce que tous les jeunes vont faire, essayer d'avorter. On arrive de revoir justement avec les complications liées à l'avortement. Et c'est ça qu'il faut éviter.
D'accord.
Comme j'ai dit,
oui.
Les circonstances sont différentes, les facteurs qui sont différents. Parmi les facteurs, par exemple, on peut revenir encore sur les tics et autres, la pauvreté qu'on a dit. Vous avez vu des cas bien connus dans des zones où quand les jeunes instituteurs part à la boutique, il revient avec les macaronis, mais les jeunes filles suivent. C'est la misère.
Okay.
Quand elles sont à plusieurs dans le même studio pour dormir, ou souvent avec des sexes différents dans le même studio, ça encore c'est la misère, la police qui fait ça. Mais je pense qu'ensemble, si on s'organise, on peut éviter justement. J'écoutais même cette radio, je crois, où des intervenants disaient qu'il faut éviter, même pour les sortir au niveau scolaire, d'amener dans le même véhicule et au même moment, les garçons et les filles, que quand ils partent à Bangalore, par exemple, la cité de ce nom-là, quand ils partent ensemble dans le même car, ce qui se passe là-bas, vous ne savez pas. Ils proposaient cet auditeur-là de faire des sorties séparées, les garçons et les filles. Mais justement, ça, c'est les circonstances. Parce qu'on les met ensemble. Alors, si on veut les mettre ensemble, il faut qu'on soit vigilants, nous, les adultes. Ce n'est pas interdit, mais il faut qu'on soit là, et présent partout. Sinon, si on sait qu'on ne peut pas surveiller, c'est nous qui avons créé la circonstance des rapports.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est de séparer un peu les deux facteurs et circonstances.
OK.
Voilà, merci.
Merci, docteur Compaoré. Madame Tchernagda Geneviève, apparemment, les jeunes sont bien informés à écouter ce micro-trottoir. Ils connaissent les produits de contraception et ils savent qu'il y a des risques. En tout cas, quel est votre avis sur ça?
Oui, effectivement, en écoutant le micro-trottoir, on sent que les jeunes sont informés sur les méthodes de contraception. Mais seulement l'information qu'ils ont n'est pas la bonne. Parce que lorsque vous avez écouté la fille, elle a dit tantôt que, bon, je ne sais pas pourquoi je vais utiliser les méthodes de contraception, je suis née pour enfanter. Donc pour elle, peut-être qu'il parlait de planification familiale, c'est limiter les naissances. Alors que non, la planification familiale, ce n'est pas la limitation des naissances, mais plutôt l'espacement. Voilà. Donc c'est pour dire que ils ont l'information, mais il y a les rumeurs aussi. Parce que sur le terrain, il y a ceux qui sensibilisent, qui viennent donner l'information. Et derrière aussi, il y a ceux qui viennent et puis neutraliser. Je prends l'exemple. On a fait une sensibilisation une fois dans un établissement où on allait parler de méthodes de contraception, tout et tout. Au retour, on a croisé un professeur d'SVT. On a essayé de causer un peu avec lui pour voir est-ce qu'il parle de ça souvent avec ses élèves en classe. Il a refusé catégoriquement. Dans sa classe, on ne parle pas de contraception, pas avec les jeunes. Ils sont là, c'est juste pour étudier et ils doivent étudier. Il n'y a pas de sexe en ce qui concerne les jeunes. Alors que c'est un parent. Donc à l'école, il ne va pas parler. À la maison aussi, il ne va pas le faire. Alors qu'on sait que les jeunes, ils sont sexuellement actifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment arriver à dépasser ce tabou-là. Refuser de dire que bon, ils sont encore jeunes. Leur problème, ce n'est pas le sexe, ça doit être l'école. Oui, c'est vrai, leur problème ne doit pas être le sexe. Mais il y a un problème effectivement qui est là. Ils sont sexuellement actifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là toute la question.
Il ne vous a pas donné les raisons. Pourquoi il ne voulait pas que vous parliez de sexualité avec
Non, il a été catégorique. Il a dit que pour eux, ils sont venus pour apprendre. Lui, à son âge, quand il avait leur âge, lui, il ne parlait pas de sexualité. Alors qu'il faut reconnaître que et la génération a évolué. Donc, il faut aller avec la génération actuelle. C'est une triste réalité. Donc, il faut faire vraiment avec. Donc, je dirais que les parents ont vraiment un grand rôle dans ce problème d'éducation sexuelle des adolescents et des jeunes.
Ok. Merci en tout cas pour ces précisions et ce bel exemple. Madame Siri, nous parlons de grossesse non désirée en milieu scolaire, mais il y a aussi un autre groupe spécifique. Il s'agit bien sûr de ceux qui ne sont pas allés loin à l'école ou qui ont eu une scolarité prématurée. Voilà. Est-ce que vous avez souvent des actions à l'endroit de ce groupe-là?
Oui, au départ, nous ne travaillons pas avec ceux qui sont déscolarisés. Mais ce qui nous a tiqué un jour, parce qu'au niveau de notre association, nous donnons des méthodes contraceptives. Nous donnons les condoms. Parce qu'on se dit, on ne peut pas parler d'abstinence et ça va arranger la situation. Nous donnons de façon gratuite, mais pour les élèves, c'est ce qu'on faisait. Mais un jour, il y a un jeune qui est venu qui nous a dit, mais mon ami m'a dit que ici je peux avoir, vous pouvez me donner gratuitement. Il dit, ah, vous êtes élève? Que non. Sa réaction, il dit quoi? Vous en donnez aux élèves seulement? Vous croyez que c'est les élèves qui sont auteurs de ces grossesses-là avec les filles en milieu scolaire? Ah non, je suis désolée. Mais il voulait partir, nous, on l'a dit, non, viens. On lui a donc, depuis ce jour, on s'est dit, bon, il faut trouver aussi une solution à ceux qui ne sont pas à l'école.
Oui.
Et ceux qui ne sont pas à l'école, il y a ce qu'on appelle les cours du soir. Depuis l'année 2016-2017, nous sommes en train d'expérimenter avec une école. Donc, on a 20 minutes où nous parlons de la sexualité avec ceux qui sont inscrits pour les cours du soir. Surtout que nous savons que ceux qui sont inscrits pour les cours du soir, ce sont des jeunes qui ont des activités dans la journée, peut-être des filles de ménage ou quand ils ont des activités et qu'il faut prendre aussi en compte parce que si on sensibilise ces gens-là et à leur tour peuvent sensibiliser d'autres personnes qui ne sont pas dans ces cours de soi comme eux. Donc, on est en train d'expérimenter avec une école. À la rentrée 2017-2018, on va voir si on peut rajouter une autre école.
C'est sûr qu'on vous contactera pour avoir les résultats. Merci en tout cas, Madame Siri. Nous parlons maintenant des risques liés au faible accès des adolescents et jeunes à la santé sexuelle de la reproduction. Madame Assié, quels peuvent être ces risques-là si les jeunes, puisqu'on a parlé de grossesse non désirée, mais également il y a d'autres risques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça?
Les risques liés au faible accès.
Justement.
Principalement, effectivement, c'est les grossesses non désirées, avec les conséquences qui en découlent. Notamment les IST, le docteur est mieux placé pour parler des cas qu'ils reçoivent chez eux, et avec les avortements, avec beaucoup de conséquences, notamment l'abandon. Ce que nous constatons au niveau des écoles. Bon, les filles, bien qu'il y ait maintenant un texte qui interdise le renvoi des filles des écoles, celles qui sont enceintes, mais c'est la fille elle-même qui s'exclut parce qu'elle a honte. Elle a honte des railleries, bon, même du regard des autres, même si on ne se moque pas d'elle. Mm-hmm. Elle pense qu'on se moque d'elle. Donc, il y a, en tout cas, au milieu scolaire, là, c'est ça. L'absentéisme, les échecs scolaires, etc. Sans compter les conséquences au niveau familial. Au niveau familial où la famille trouve que c'est honteux et elle est bannie. La fille est bannie. Quand elle est bannie, qu'est-ce qu'elle peut faire? Sa situation ne fait que s'empirer. Et parfois même lorsque la fille a eu un enfant à la suite de cela, il arrive même que plus tard, elle a des difficultés pour avoir un époux. Parce que c'est une fille mère qui a déjà des enfants, etc. Donc, on peut dire que depuis même au niveau de, pour ce que nous connaissons, au niveau de l'école, qui est hypothéquée, c'est pratiquement, si on y prend garde, le reste de sa vie qui en prend vraiment un coup.
Oui.
Voilà.
D'accord. Et est-ce que déjà il y a des politiques en vue au niveau du MENA, donc justement comme on avait parlé au début de l'émission, pour l'insertion justement de cours, de modules sur la santé sexuelle de la reproduction dans le système scolaire?
Tout à fait.
Oui.
Bon, comme je vous ai dit au départ, on avait expérimenté l'éducation sexuelle dans les années 84-85, c'était concluant. Ça a été suspendu parce que les enseignants étaient formés en même temps. Surtout ce qui concerne les thèmes d'éducation en matière de population. Mais on a été interpellés plusieurs fois. Pourquoi est-ce que l'école ne vient pas en appui aux communautés, à la famille, pour aider aussi en tant qu'elle est sa contribution? Il faut nous aider un peu. Il n'y a pas longtemps, il y a une association qui a interpellé notre direction générale pour qu'on puisse reprendre ces cours d'éducation sexuelle. Mais c'est quelque chose qui est délicat. Alors, qui nécessite une formation adéquate parce qu'il faut savoir parler, comme elle le disait tantôt, Madame Darnagda et Cyril. Il faut savoir parler aux jeunes. Il ne faut pas venir en policier. Les jeunes ont horreur de ça. S'ils ont confiance en vous, si vous savez leur parler, vous pouvez leur apporter beaucoup. Mais ceci dit, le MENA a pris à bras le corps la situation. Parce qu'à l'heure actuelle, on est en train d'insérer les contenus d'éducation, de santé, de la reproduction de façon générale et d'éducation sexuelle dans les programmes. Mais comme c'est un processus qui est progressif, ça, il y a eu déjà les premières années, ce qu'on appelle les premières années de chaque cycle, c'est-à-dire au niveau du préscolaire, au niveau du primaire et au niveau du secondaire et du post-primaire, c'est-à-dire 6e, 5e, CP, CP1, etc. Et la progression, ça va continuer jusqu'à et ça finira en 2020. L'insertion est progressive. Parallèlement, on est en train de revoir les modules. Bon, la DMPC a un module. Nous, on souhaiterait revoir le contenu et renforcer déjà. Mais déjà, au niveau du MENA, on vient de finir l'élaboration d'un document qui contient trois unités, des unités sur la santé de la reproduction, des unités sur les mutilations génitales féminines et une unité sur le mariage d'enfants. parce que ce sont tous des problèmes que vivent les filles. Et je suis contente que Mme Cyril ait souligné ça, parce qu'au niveau de l'éducation, on ne s'adresse pas principalement, on ne s'adresse pas qu'aux filles. C'est les deux en même temps. Malheureusement, c'est la fille qui prend le plus les pots cassés.
Oui.
Mais la façon dont on compte donner cette éducation, c'est aussi bien aux garçons qu'aux filles.
Okay.
Voilà. Et quand ça sera effectif, bon, déjà c'est encourageant, parce que ce module est pratiquement fini. Et spécifiquement, il se peut qu'on puisse vraiment axer l'éducation à travers un module spécifique sur l'éducation sexuelle et former qu'est-ce que, de façon pédagogiquement, selon l'âge, le docteur a dit tantôt, selon l'âge, les besoins de l'enfant, la psychologie de l'enfant, par âge, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Comment leur parler? Et de façon, quelle pédagogie utiliser pour pouvoir faire passer ces messages-là. Voilà, c'est ce à quoi on veut s'atteler. On a commencé d'ailleurs.
D'accord.
Et j'ai foi que ça puisse continuer.
Alors, merci beaucoup et beaucoup de courage, Mme Sillé.
Merci.
Et l'exclusion des adolescents et jeunes de l'accès à la SRR, c'est le thème de cette émission. Exclusion des jeunes et adolescents. Pourquoi on parle d'exclusion, docteur? L'accès aux soins en matière de santé sexuelle et reproductive est libre. Pourquoi parle-t-on d'exclusion au sein des jeunes et adolescents?
Je crois que c'est un vocable utilisé par l'émission. Nous ne disons pas qu'ils sont exclus.
Oui.
Nous disons simplement que l'accessibilité, en tout cas l'offre de soins, il y a encore des efforts à faire. Ça, c'est évident. Il y a encore des efforts à faire parce que, quand j'ai dit tantôt, au début d'émission, les chiffres que nous avons présentés montrent qu'il y a un grand effort à faire. Parce qu'on ne s'entend pas d'abord, on ne s'attend pas à avoir déjà des adolescents qui sont dans, disons, la reproduction. Alors, quand on voit des adolescents qui sont en train de faire des enfants, c'est déjà un problème. Et nous avons un fort taux justement de ces adolescents, c'est-à-dire qu'il y a un grand problème. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on parle d'exclusion? Je pense qu'on doit parler plutôt en termes d'accessibilité. Parce que l'accessibilité, même sur le plan culturel, il y a encore des problèmes.
Oui.
Oui, il y a des localités où ce n'est pas encore accepté. De parler même de ça, c'est déjà un tabou.
Oui.
Il avait tantôt expliqué. Donc tout cela contribue à faire en sorte que l'adolescent, même quand il a ses besoins-là, il s'abstient d'en parler, il s'abstient de venir vers les services qui peuvent justement résoudre son problème. Donc quand on va les voir, c'est surtout avec les conséquences en général qu'on les verra. Sinon, pour cette tranche d'âge-là, la meilleure des méthodes que nous conseillons, en dehors de l'abstinence, c'est la double protection, le condom, par exemple, qui fait la double protection à lui seul. Mais là, on doit échouer avec l'abstinence. Parce qu'il faut comprendre, comme on a dit tantôt, madame, à 12 ans, elle a commencé. Il y a aussi, je permets de revenir quand même sur un autre aspect pour les parents.
Oui.
Les parents, très souvent, attendent l'âge où elles ont vu leur ménage pour commencer à expliquer aux jeunes filles. Mais c'est trop tard. Elles ont eu leur ménage à 14 ou 15 ans. Peut-être que les filles vont voir ses premières règles justement à 12 ans ou 11 ans. Beaucoup de facteurs peuvent expliquer.
Oui.
En dehors de l'alimentation, les stimulus que nous avons ambiants, c'est-à-dire les émissions, tout ce qu'on a comme tic, les médias, contribuent justement à faire que la puberté soit précoce. Voilà, et ça peut expliquer. Elles vont commencer très tôt, les rapports. Malheureusement, elles restent longtemps sans se marier, de plus en plus. Donc, elles auront chez les parents une longue vie sexuelle. Ce n'est pas intéressant pour les parents.
Ouais.
Les conséquences, tout à l'heure, madame l'a expliqué, il faut dire que les conséquences sont à trois niveaux. L'individu, immédiat, à long terme ou à moyen terme, jusqu'aux fissures, par exemple, ou rupture pour les grossesses, pendant l'accouchement. Il y a aussi les conséquences sur la famille. Parce que ça vous fait un espoir brisé que vous devez supporter. Sur le plan économique, c'est horrible. Sur le plan culturel, sociologique, c'est horrible. Mais ce n'est pas tout. Au niveau de l'État en lui-même, quand la grande majorité de votre population est jeune, comme le cas du Burkina, et qu'il ne peut pas produire, c'est une catastrophe. Parce que n'importe qui peut imaginer, quand il n'y a que des jeunes inexpérimentés, parce que quand on ne va pas à l'école, on n'a pas d'expérience.
Oui. C'est sûr, docteur, qu'on va se retrouver pour une autre émission pour bien décortiquer, puisque nous sommes à la fin de l'émission, c'est vite arrivé. Mais Madame Tarnagda Geneviève, c'est quel est le message fort pour la jeunesse, très rapidement, avant qu'on clôture? Qu'est-ce que vous voulez dire à la jeunesse afin qu'on atteigne une tolérance zéro des grossesses non désirées?
Ok, le message que j'ai à lancer vraiment à la jeunesse, c'est surtout d'aller vers la bonne information, parce que tout part de l'information. Aller vers la bonne information, parce que entre nous jeunes, l'information passe, mais l'information juste ne passe pas. Voilà, donc c'est surtout aller vers l'information. Certes, en famille, on considère comme un sujet tabou. Les parents n'en parlent pas. Il y a ce manque de dialogue intergénérationnel, mais qu'on puisse aller vers l'information. Demander aussi aux parents de pouvoir briser cette glace-là et pouvoir entreprendre une communication franche et sincère avec leurs enfants sur la, sur les questions de santé sexuelle et de la reproduction. On va également aussi demander de rendre l'information accessible voilà, à tous ces jeunes-là, afin qu'on puisse vraiment arriver à vraiment zéro grossesse non désirée en milieu jeune.
Merci, Madame Tarnagda. Madame Siri, atteindre une tolérance zéro en matière de grossesse non désirée, grossesse précoce en milieu scolaire, est-ce que c'est possible? Très rapidement.
Oui, c'est possible. C'est possible.
Et quel est votre message?
Moi, mon message, c'est que les parents discutent avec leurs enfants. Ne laissez pas vos enfants avoir l'âge de 12, 15 ans pour dire « je parle de sexualité avec mon enfant ». Non, on commence tôt, hein, pour gagner quelque chose de positif.
D'accord. Merci, Madame Siri. Madame Sié, très rapidement, éducation sexuelle, oui. Quel est le message?
Bon, je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont dit.
Oui.
Seulement, j'interpelle mon ministère qui a déjà commencé un travail formidable à continuer et à permettre à ce que les enseignants qui seront commis à cette tâche-là soient réellement bien formés pour pouvoir aider les parents qui ont des difficultés. Et que ces enseignants qui seraient formés ne se gênent pas pour répondre aux questions de leurs élèves.
Ok. Merci, Madame Sié. Docteur Compaoré, très rapidement, vous avez parlé de espoir perdu pour les parents, mais et pour le gouvernement?
Oui, j'ai dit que tantôt que la conséquence est à trois niveaux. L'individu, la fille ou le garçon, la famille d'où elle vient et l'État entier. Voilà ce que je tente d'expliquer. Je pense que, si je viens rapidement, hein, en termes d'action, qu'est-ce que l'État est en train de faire? On l'a déjà dit. Mais ça doit toujours commencer par la famille. Il faut que la démission des parents ne soit plus d'actualité. Il faut que les parents s'impliquent mieux. Et qu'ils fassent attention aux objets, aux utilisations qu'ils en font, les jeunes, au lieu de fréquentation. Tout cela est important et les personnes adultes doivent agir. Parce que l'adolescent, c'est vrai, son goût de prendre les risques, c'est inné. C'est comme ça. C'est sa nature. Il ne va pas s'arrêter dès maintenant. Et c'est aux grandes personnes justement de mettre les garde-fous assez bien placés pour les éviter de chuter. Les actions au niveau de la santé. Je crois que j'ai devant ici des documents que je vais laisser tantôt avec Mme Sié, par exemple. Il y a des stratégies qui ont été élaborées. Il y a, par exemple, dans l'ensemble des districts, des centres jeunes santé. Je dis entre guillemets santé, qui devaient être animés par les adolescents et les jeunes, en collaboration avec le ministère de la Santé. Mais il y a des lieux où la fréquentation n'est pas ce qu'il faut. Parce que ces lieux sont faits justement pour que les jeunes puissent s'y retrouver et puissent être à l'aise dans un endroit assez convivial pour eux. Pour que justement l'information juste leur arrive à temps. Ça, c'est important. C'est le premier standard en réalité. L'information juste arrive à temps. Le second, c'est de pouvoir offrir les soins. Parce qu'en général, quand l'information elle passe, l'individu va vouloir chercher à avoir les soins. Je pense qu'à ce jour, l'ensemble des CSPR du Burkina peuvent offrir justement la SR. Il n'y a pas, c'est rare les CSPR où il n'y a pas de SR. Où il n'y a pas la PF, je veux dire. Donc partout on peut l'avoir. Maintenant, il faut avoir l'information et savoir la chercher. C'est vrai que les compétences également de certains acteurs ne permettent pas souvent l'accès. Mais nous travaillons sur cela. Les formations que nous avons faites, je crois que ça va changer quelque chose. Cette année déjà, on en fera. L'année passée, on en a fait déjà plusieurs. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que quelques personnes formées sur un grand lot, ce n'est pas simple. Mais il faut que, comme a dit tantôt Tanada, les jeunes sachent qu'ils doivent aller eux-mêmes à l'information. Ne pas s'arrêter à l'information qu'on voit sur le Facebook. Parce que souvent, ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Pour avoir la vérité, il faut aller trouver
la source de l'information, l'agent de santé.
D'accord.
Le communicateur, l'éducateur. Mm-hmm. Voilà, merci.
Merci, docteur Compaoré. Je rappelle que vous êtes docteur Compaoré Issaka, médecin de santé publique au ministère de la Santé et plus précisément à la direction de la santé de la famille. Nos invités également dans ce studio, nous avons Madame Siri Mariama, présidente de l'association Mère Teresa de la Charité. Elle s'est engagée donc dans la lutte contre les grossesses précoces et grossesses non désirées en milieu scolaire. Nous avons également Tarnagda Geneviève Clémentine, elle est présidente du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction. Et dans ce studio également, une enseignante qui nous a bien éduqués sexuellement. Il s'agit de Madame Sié Aïda Estelle. Elle est de la direction de l'éducation en matière de population et de citoyenneté au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission que j'ai eu le plaisir à vous présenter. On espère en tout cas avec nos invités qu'on aura l'occasion pour une autre émission et les prochaines fois. Merci encore pour votre disponibilité, bonne suite de programme et bon week-end à tous.
Merci également à vous.
Voici à présent un écran publicitaire.
Vivez en France ou aux USA, gardez le contact avec le FASO. Écoutez gratuitement